Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Bonjour et bon week-end à tous. Nous voici présents pour la réalisation du 27e numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekeluka pour cette année 2019. Il est consacré à l'analyse du collectif budgétaire 2019 adopté à l'Assemblée nationale vendredi dernier. En région, nous allons nous rendre à Batangafo 1 pour parler des difficultés de la population. La loi sur l'Office national du coton adoptée par les élus de la nation en Centrafrique sera aussi au menu avec le député Guy Roger Mosquée. Nous sommes deux au micro,
Joët Bagali
et Igor Jeskin Senapaï. La partie technique, nous avons Guirimi Yamenindi et Loïc Ben Adjezekane. Une petite pause et c'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka. Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tous. L'Assemblée nationale a adopté vendredi dernier le collectif budgétaire pour l'exercice 2019. Environ 281 milliards de francs CFA, c'est le budget total voté par les élus de la nation pour permettre au gouvernement d'avoir des moyens pour son fonctionnement.
L'adoption a eu lieu en présence du ministre des Finances Henri-Marie Dandra. Ce budget rectificatif prend en compte le changement du gouvernement suite à l'accord de paix signé le 6 février dernier avec les groupes armés. Augustin Gou, membre de la commission Finances, donne et examine ce budget rectificatif.
Vous savez qu'un collectif budgétaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le réajustement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gouvernement a estimé qu'il y a des faits nouveaux, qu'il faut revoir le budget. Et comme vous savez, généralement, le budget, c'est un état provisionnel. Hein. L'état fait une prévision et quelques mois plus tard, l'état s'est rendu compte qu'il y a des faits nouveaux, qu'il faut revoir ce budget. Et c'est pour ça qu'on a amené le collectif budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, naturellement, nous avons voté ce budget. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? Premièrement, on a constaté une baisse drastique des recettes de l'État. Donc, les recettes de l'État ont totalement baissé. Et donc, les signaux sont en rouge. Et c'est des interrogations. Et nous avons constaté également que le ministre des Mines nous a demandé de baisser les tarifs, les taux tarifaires de l'exploitation de diamants et or. Voilà des quelques faits qui ont retenu mon attention. Nous avons également soulevé le problème de vente de Canfidèle au Brou, parce que nous, on ne savait pas dans quelles conditions ces ventes ont eu lieu et on a vendu à qui. Est-ce qu'on a fait la publicité? Est-ce qu'on a suivi la voie légale? Et donc, voilà ce genre de questions qui ont été soulevées par les honorables députés à l'attention du ministère des Finances et du Budget.
Mais en interpellant le ministère des Finances dans votre commission, qu'est-ce qu'il vous a donné comme réponse par rapport à ces préoccupations?
Premièrement, si vous voulez savoir par rapport aux fonds spéciaux, nous avons constaté la demande émanant du ministère, c'est qu'il faut augmenter les fonds spéciaux de la présidence de la République et de la primature. Et nous avons fait le calcul. Donc, quand vous êtes dans la presse, certainement, vous avez le budget initial 2019 qu'on a voté en décembre 2018. Donc, il y a un montant qui a été arrêté concernant les fonds spéciaux. Il faut rentrer dans le détail pour voir le montant qui touche le fonds spécial. Le fonds spécial, ce n'est pas les 200 quelques milliards que vous parlez, non. Il y a un montant, prenez le budget initial qu'on a voté en décembre 2018, vous allez voir le montant arrêté qui concerne le fonds spéciaux de la présidence et de la primature. Et maintenant, la demande était d'augmenter ces fonds spéciaux et nous avons évalué à hauteur de 77%. Ça veut dire qu'on a demandé à l'Assemblée nationale de voter l'augmentation des fonds spéciaux à hauteur de 77% pour la présidence de la République et à hauteur de 45 ou 47% pour la primature. Voilà la demande initiale et nous avons posé une série de questions au ministre des Finances pour savoir, premièrement, nous avons constaté la baisse drastique des recettes de l'État. Et de l'autre côté, nous ne comprenons pas que l'État, malgré les recettes totalement baissées, mais on nous demande encore d'augmenter les fonds spéciaux. Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? Et donc, le ministère nous a expliqué que on nous a ramené dans ce que vous appelez l'accord de Khartoum, parce que tout se résume maintenant sur l'accord de Khartoum, que le nombre de ministres ont augmenté et il y a eu des nominations au niveau de la présidence de la République et au niveau de la primature. Voilà ce qui justifie cette demande d'augmentation des fonds spéciaux. Voilà l'argumentation qu'a avancé le ministre des Finances et du Budget.
Le parlementaire revient sur la hausse des fonds spéciaux constatés sur ce budget rectificatif. Augustin Agou.
Nous avons posé ces questions. Premièrement, on nous fait toujours comprendre que une partie du pays est entre les mains des rebelles. Et comme vous le savez, et également, il y a des faits. À un moment donné, il y a eu des remous sociaux dans le pays. Tous ces arguments-là, je dis, ça n'engage que moi. J'étais pas convaincu.
dans votre commission dorénavant si le budget doit être retouché? Est-ce qu'il revient à vous aussi d'augmenter ou de rabaisser ou bien de supprimer certaines lignes?
Je vous remercie. Ce sera pas, vous savez, c'est le rôle de l'Assemblée nationale. Un député de l'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale, les députés sont là pour voter des textes de loi et contrôler l'action du gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui vote le budget de l'État. C'est l'Assemblée nationale qui dit, qui donne l'ordre, un mandat à travers des votes pour dire au gouvernement, à partir du 1er janvier de telle année, vous pouvez commencer à collecter les impôts et les taxes et engager des dépenses. Si nous ne votons pas, l'État ne peut pas le faire. Donc, c'est notre rôle. Maintenant, quand l'État amène le budget, je vous ai dit, si vous avez insisté sur les fonds spéciaux, la demande initiale était d'augmenter à hauteur de 77%. Mais en résumé, on a ramené de 77% à 50%. Vous comprenez? Et donc, c'est notre devoir, c'est notre rôle. Donc, nous examinons le budget au fond, nous posons des questions, nous interrogeons. Si nous voyons que quelque chose n'est pas clair, que nous ne sommes pas convaincus, nous avons le plein droit de supprimer ou de diminuer. Voilà le rôle de l'Assemblée nationale.
Mettons le cap, Igor, sur les villes de province.
Oui, Jean-Yves, nous restons cette semaine exclusivement dans la sous-préfecture de Batangafo dans l'Ouham. De retour de sa mission de restitution parlementaire, le député Marc Deloro met en exergue les difficultés que mine le développement de la localité.
Je vous remercie, je suis allé dans ma circonscription, mais pas seulement en tant que député de Batangafo 2, je suis allé en tant que député de la nation. Donc, par conséquent, j'ai commencé à relever les difficultés au niveau de la route Bossembélé-Bossangwa. Ce tronçon de 148 km, on peut parcourir pendant 2 ou 3 heures de temps compte tenu de la dégradation avancée de l'état de route. Et le deuxième aspect, c'est à Bossangwa que j'ai pu constater la pollution de la rivière qui fait problème ces derniers temps et jusqu'à Batangafo. Dans ma circonscription, j'ai relevé beaucoup de problèmes, entre autres le non-versement des indemnités des chefs aux ayants droit par le sous-préfet de Batangafo. Voilà, ça c'est le problème. Et puis finalement, j'ai essayé de tenir une réunion avec la population et leur sensibiliser un peu sur l'accord de paix et puis revenir à Bangui.
Mais quels sont les autres aspects qui préoccupent aujourd'hui vos administrés?
Oui, le problème majeur, c'est le problème de la pollution de l'eau. Ça, c'est le problème majeur qui préoccupe toute la population à partir de Batangafo, de Bossangwa jusqu'à Batangafo. Ça, c'est le problème réel. Et le problème dans ma circonscription précisément, le problème de l'école. Il n'y a pas des écoles pour les enfants, il n'y a pas de médicaments pour les habitants et l'agriculture, même l'arriéré de coton qui n'est pas payé depuis ce temps par le gouvernement. Ça, c'est des problèmes qui préoccupent réellement la population.
Vous avez un message?
Oui, le message, c'est de demander à l'État de prendre ses responsabilités dans le sens d'arrêter l'exploitation de l'or dans la préfecture dans la rivière Ouam. Parce qu'il y a des gens qui vivent que de cette rivière-là. Donc là, il y a beaucoup de conséquences. Donc le message, c'est de demander au gouvernement d'arrêter. Nous ne refusons pas. Le gouvernement a raison d'exploiter le sous-sol pour avoir de l'argent et aider la nation. Mais le mieux, c'est de respecter les règles, c'est de respecter l'environnement, c'est de respecter la population. Donc c'est ça là, le message fort que je lance à l'endroit du gouvernement. Et je lance également ce message là au gouvernement de payer les arrêts des cotonculteurs. Parce qu'ils sont là depuis longtemps, on a enlevé leur coton, c'est égrené déjà, c'est envoyé au marché mondial. Par contre, eux, ils ne sont pas payés jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est des signaux forts pour la population. Et aussi, nous avançons vers la rentrée scolaire. Donc il est mieux d'affecter, il y a la paix précaire qui est là. Donc il est question d'affecter les agents pour enseigner les enfants qui sont là-bas. Il est question d'envoyer des médicaments, il est question d'affecter les personnels soignants qualifiés dans les centres de santé, les formations sanitaires qui sont là, mais sans personnel. Voilà, ça c'est le message fort que j'adresse au gouvernement.
Les Centrafricains ont donné leur avis sur la loi instituant l'Office national du coton votée par les élus de la nation.
L'Office national du coton que l'Assemblée nationale vient de voter, nous la population on accepte ça aussi.
J'apprécie ça, en tout cas c'est une belle idée que nos élus viennent de mettre en place, donc je crois que c'est pas mauvais. En tout cas, c'est pour développer l'économie de la RCA et l'agriculture.
C'est une bonne chose pour le développement de notre pays, la RCA. Parce que beaucoup de jeunes, qu'autant peut développer l'agriculture, aider nos paysans.
Je pense que la représentation nationale a pris ses responsabilités, on va le dire comme ça, parce qu'une cellule a peut-être des actions limitées. Or, si on passe au stade d'office, on a plus de capacités opérationnelles et on donne au pays un engagement pour pouvoir développer les activités liées à la production cotonnière, qui, à l'époque, nous ramenait beaucoup de devises. Entre-temps, on a perdu un peu parce que, bon, il y a eu des structurations du système. Maintenant, je pense que le message que la représentation nationale a envoyé à la population centrafricaine et aux acteurs de cette filière est un message fort. On les encourage tous à travailler pour que demain, on puisse au moins gagner un peu de notre coton et que les dettes que l'État avait contractées, parce qu'il fut un moment où on a pris du coton aux gens et puis on ne les a pas payés, on paye 4-5 ans après, ça a déstructuré les familles, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, les gens se sont plaints. Payez les dettes de tous les producteurs de coton, remettez-les au travail, donnez les meilleures semences, accompagnez-les dans le traitement des sols, le traitement des plants de coton, et donc on sait que le devenir sera meilleur. Peut-être que nous, on va commencer à produire des habits à partir du coton centrafricain.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Revenons maintenant vers le député Guy Roger Mosquite pour des précisions sur cette loi.
La loi vient d'être votée par la majorité des députés parce que c'est une attente de beaucoup de cotonculteurs, des paysans. Le coton est très important pour nous et nous qui sommes d'un certain âge, on sait que le coton, à notre jeunesse, a joué un rôle très important. Il nourrissait plus de 1,5 million à 2 millions d'habitants centrafricains et on a été fiers de s'habiller avec les produits de nos cotons cultivés par nos propres parents. Donc c'est très important. C'est plus important que le désarmement, c'est plus important. Je crois qu'en relançant la filière de coton, on va régler beaucoup de problèmes de paix dans ce pays.
Il y a une différence entre la cellule coton et un office ?
Une différence organique, déjà par le fait que la cellule n'avait pas d'assises juridiques et l'office a une assise juridique conditionnée par l'exigence des bailleurs de fonds qui veulent qu'il y ait de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion de cet office-là pour que ça ne soit pas encore une énième office qui servira de cache d'argent ou cache de népotisme et de clientélisme.
Après cette adoption, quelle est la procédure à suivre pour l'opérationnalisation de cette structure ?
La procédure, ça va être complètement au niveau de l'exécutif. Donc le gouvernement est très remonté pour que ces choses-là se réalisent très rapidement. Et la population ne cesse d'attendre que cette activité de coton reprenne. Il y a des problèmes d'arriéré. Le gouvernement va faire de telle manière que progressivement les choses vont se régulariser. Mais avec l'apport des bailleurs de fonds, on va peut-être voir le gouvernement à l'œuvre pour relancer effectivement cette activité de coton qui occupe pratiquement 60% du territoire national.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndekeluka émettant sur les 100.9 FM. Nous allons terminer ce magazine avec la connaissance du terme conseiller parlementaire à l'Assemblée nationale. Retrouvons Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale, pour des éclairages.
Le conseiller parlementaire, c'est d'abord un membre d'une institution de la transition qu'on appelle Conseil national de transition. Pendant la période transitoire, il n'y a pas eu des élections normales. Et donc, pour essayer d'instaurer la démocratie dans un État, afin que chaque couche sociale parvienne à se faire représenter, n'est-ce pas, au niveau des institutions du pays, il a été mis le Conseil national de transition. Et donc, les membres sont issus des différentes forces vives de la nation. Il y a des représentants qui viennent des partis politiques, il y a des représentants qui viennent des ONG, sociétés civiles, des secteurs d'activité tels que commerce, des secteurs sociaux tels que les syndicats, etc., etc. Et donc, le mode de désignation est très différent d'un membre de l'Assemblée nationale parce que nous, les députés, nous sommes élus au suffrage universel, c'est-à-dire élus par la population. Alors que un conseiller national, membre du Conseil national de transition, lui, il est désigné par son entité à laquelle il appartient. Par exemple, quelqu'un qui est de syndicat, c'est son syndicat qui va se réunir et le désigner. Donc, les modes de désignation sont très différents. Ici, il n'y a pas de la représentation impérative. Voyez-vous, la règle de la représentativité ne se pose pas ici, concernant le Conseil national de transition, notamment le conseiller national. Et donc, ce sont ceux-là, issus des différentes forces vives de la nation, qui constituent ce qu'on appelle le Parlement de transition et donc le Conseil national de transition, dont les pouvoirs sont limités. Parce que vous allez voir que pendant la transition, le Conseil national de transition n'exerce pas tous les pouvoirs dont dispose une Assemblée nationale. Par exemple, l'un des moyens de contrôle essentiel du gouvernement, qui est la motion de censure, cela n'a pas été accordé au Conseil national de transition. Et donc, voilà un peu la différence qui existe entre ceux qui sont issus des entités, des forces vives de la nation et qui constituent un parlement de transition parce qu'il faut éviter le vide et donc faire en sorte qu'un organe parlementaire puisse exister pour accompagner le gouvernement dans les actions. Et donc, alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée sont élus et ils s'appellent députés.
Cette rubrique met un terme à ce magazine de la semaine. Tous nos remerciements à ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Djeskin, Sénapaï et
Joël Bagali.
À la gestion, au numéro nous avons Loïc Ben Adjezekane, Guy Rémi Yamininji. Nous remercions aussi le staff de la communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Toutefois, vous pouvez réécouter ce magazine sur les www.radionicolica.org.